Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous pouvons passer sous son regard. La vie avec Dieu est une vie de grâce. Vous êtes d'accord? La vie avec Dieu est une vie de paix. Le joug du Seigneur doit être doux. Et pourtant, même des chrétiens n'arrivent pas à entrer dans cette vie de paix, de grâce. Et j'aimerais ce soir voir quelques textes avec vous pour vous aider à comprendre que vraiment Dieu est le Dieu de toute consolation. Mais d'abord, dans le psaume 77, nous voyons un homme qui a été choisi par David pour diriger la chorale, et pourtant, c'était un homme spirituel, mais même si, on le verra à la conclusion, même si on aime Dieu, on peut traverser des moments où on refuse certaines bénédictions. Regardez dans le psaume 77, c'est bien parce que Dieu nous permet de comprendre ces choses, nos luttes et nos combats intérieurs. Parce que tout n'est pas toujours rose. Il y a des moments où on lutte. Je ne sais pas si vous l'avez vérifié. Il y a des moments où ce n'est pas facile du tout. Regardez par exemple dans le psaume 77, verset 2. Regardez avec moi. « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. » Vous voyez, ça commence avec quelqu'un qui est plein de foi. « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Pause. Il est clair que ça mérite un moment de réflexion. On voit un homme qui, en même temps qu'il exprime sa foi, va être amené à dire « Mon âme refuse toute consolation ». Ça explique que notre vie est faite de difficultés. D'un côté, on est capable d'avoir une foi vivante, et de l'autre, parce qu'on est perturbé, eh bien, de refuser certaines consolations de la part du Seigneur. On peut passer à côté de certaines bénédictions. Et on va voir que Dieu est le Dieu de la consolation. Venez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. C'est comme ça que Dieu se présente. Il ne se présente pas que comme étant le Dieu de la consolation. Dieu n'est pas que le Dieu de la consolation. Dieu est le Dieu d'amour, Dieu est le Dieu de la miséricorde, Dieu est le Dieu de la justice, de la sainteté. Vous savez que les attributs de Dieu sont nombreux. On les compte environ au nombre de 150. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. On va lire le verset 2 et le verset 4. Il faudrait lire la suite pour voir que Dieu a une idée derrière chaque épreuve. Alors, que la grâce et la paix vous soient données. Rappelez-vous, chaque fois qu'il y a ce mot, c'est vraiment un don. Dieu aime donner. Et comme Jérémie le présentait si bien pour une fois dans les chants, lorsqu'il a dit, et sa douce voix, l'entendrez-vous. Non, c'est pas rare quand même. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Si vous avez besoin d'un titre à la Sono, j'ai mis comme titre le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. La vie est faite d'afflictions, la vie est faite d'épreuves, la vie est faite de moments difficiles. Mais voilà, Dieu a le pouvoir de nous donner sa paix, à nous de la prendre. Paul parle de cette paix qui surpasse l'intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et pourtant, combien de chrétiens n'arrivent pas à saisir cette grâce? Alors, que des incroyants qui encore sont dans leur aveuglement, dans leur péché, dans leur mort, n'arrivent pas à la saisir, c'est normal, puisque la Bible dit que le Dieu de ce siècle leur a voilé l'intelligence. C'est normal qu'un aveugle ne voit pas. C'est beaucoup plus grave qu'un chrétien n'arrive pas à ne pas voir, justement, la bénédiction que Dieu veut lui donner. Beaucoup de chrétiens souffrent de crainte, de malaise. Et en tant que pasteur, je vous avoue que ça nous turlupine quand même de voir que des chrétiens qui aiment Dieu, qui n'arrivent pas à rentrer dans ce repos. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question pour la rentrée, à partir de septembre, de faire toute une série d'exhortations, comme on l'a vu un peu mardi soir, à savoir que c'est normal en même temps d'avoir peur, comme Josaphat qui a vraiment eu peur, ça ne l'a pas empêché de faire une expérience avec Dieu. Il n'a pas tout remis en question parce qu'il a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il n'a pas dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que j'ai fait de travers. Et si j'avais davantage de foi, si j'avais prié davantage, tout ça c'est ridicule, ce n'est pas comme ça qu'on avance avec Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le montre pour qu'on puisse le régler. Donc, ce que je voudrais ce soir, c'est que vous saisissiez que le Dieu que nous vous présentons, le Dieu du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de toute consolation. Alors, vous avez certainement fait cette expérience qui n'est pas des mieux, mais qui existe, c'est de discuter avec des chrétiens qui, lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que, eh bien, ils procurent plus le découragement qu'autre chose. C'est terrible, ça. On en arrive même à en fuir certains. Ça vous est jamais arrivé? Enfin, c'est pas bien ce que je dis, mais enfin, écoutez, on va pas faire les hypocrites. Est-ce que ça peut arriver de fuir un chrétien? C'est triste d'en arriver à dire ça. Parce que vous savez qu'il va avoir des propos négatifs. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Si vous lavez la main deux fois, c'est que ça vous est arrivé plus de 100 fois. Je pense, je le présente un peu sous forme d'humour, mais il y a des chrétiens qui, par leurs doutes, par leurs craintes, donnent une image triste de la véritable vie spirituelle. C'est quand même dommage d'avoir donné son cœur à Jésus un jour et de vivre dans la tristesse, dans la crainte et justement, en plus, de répandre ce mauvais témoignage autour de nous. Si encore c'était personnel, mais bon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je suis découragé, il est normal que je décourage les autres, peut-être même sans m'en rendre compte. Oui, Dieu veut que nous procurions la paix, que nous reflétions la paix, la consolation. Il n'y a pas des gens avec qui vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimez être? Pourquoi? Michael, vous aimez être, par exemple, avec une certaine jeune fille, non? C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimez vous trouver? Pourquoi? Parce qu'ils vous procurent la paix. C'est pas vrai? Il n'y a pas des gens qui vous font du bien, avec qui vous aimez être. Vous allez discuter avec eux. Vous savez que vous allez vous faire du bien. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu veut. Alors, c'est vrai qu'on a des moments, on a des hauts et des bas. Mais d'une certaine manière, nous devrions toujours refléter la grâce et la paix. Alors, je vais vous parler je veux vous aider à chacun et à ceux, bien sûr, qui écouteront cette prédication sur le site internet, de réagir afin de saisir cette bénédiction. Car ce que Dieu nous propose, c'est quelque chose de concret. Si je vous dis le mot consolation, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Si vous deviez mettre un synonyme à côté du mot consolation. Pour moi, la consolation, c'est un soulagement. Est-ce que quand on est consolé, on est soulagé? Mais bien sûr. Ça vous est jamais arrivé d'entendre que quelqu'un allait peut-être mourir? Quelqu'un que vous aimiez, puis vous avez appris qu'il s'est sorti d'affaire, il a été guéri, ça ne vous a pas soulagé? Quelle bénédiction, hein, c'est pas vrai? Voilà, oui, qui dit consolation dit soulagement, encore. Réconfort. Voyons, on pourrait mettre plein de synonymes qui nous indiquent que le mot consolation, c'est pas une grosse théologie intellectuelle. Vous savez, je parlais cet après-midi de certains pasteurs, tenez-vous bien, de certains jeunes qui sont rentrés dans des instituts pastoraux et quand ils sont sortis de ces écoles bibliques, ils avaient perdu la foi. C'est vrai ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont tellement réfléchi, étudié la thèse et l'antithèse des textes qu'ils en ont perdu la simplicité. Quand Dieu parle de consolation, c'est quelque chose de concret que l'on doit vivre. Alors, regardez par exemple un texte dans Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 66, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, on va voir une trentaine de textes sur la consolation. D'accord? Là, vous aurez besoin vraiment de consolation après. Alors, dans Ésaïe au chapitre 66, Regardez comment Dieu en parle. Il en parle de maintes et maintes façons, mais on va voir quelques textes. Ésaïe 66, verset 12. « Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. » Vous trouvez, comment vous la trouvez cette parole ? Comme un homme caressé sur les genoux de sa mère. Voilà, ça c'est une véritable consolation. Qui a créé la mère ? Qui a créé la maman ? Bon, est-ce que vous pensez qu'une maman sait consoler son enfant ? Oui ? Voilà, les jeunes filles, vous le vérifierez bientôt, naturellement. Hein ? Bon, si Dieu a créé la femme, si Dieu a créé la mère, Dieu a créé la mère avec le pouvoir de consoler son enfant. Mais vous comprenez bien que si Dieu a créé la maman, Dieu est encore plus capable de consoler quelqu'un. Vous le comprenez bien. Alors, est-ce que vous le croyez ça, que Dieu est capable de consoler quelqu'un ? Dieu sait comment vous fonctionnez, Dieu sait les chagrins que vous avez. Pourquoi la Bible parle si souvent d'affliction, de chagrin ? On va le voir par les quelques textes qu'on va lire. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à saisir cette consolation ? Ce sont de vraies questions. Moi, je suis peiné lorsque je vois des chrétiens qui sont tristes. Il peut y avoir des moments tristes à chaque jour, suffit sa peine. Mais d'une certaine manière, je le répète, un chrétien, il doit vivre dans la grâce. Il doit être libéré, épanoui, etc. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à saisir cette consolation que Dieu présente ? On vient de le lire encore dans ce texte. Eh bien, parce que moi, je vais vous le dire. Parce qu'ils voient plus un juge en pensant à Dieu qu'un père plein d'amour et de miséricorde. Et je vous pose la question, qui est Dieu pour vous ? Un juge sévère ou un Dieu plein d'amour ? Alors est-ce que Dieu sera un jour un juge sévère ? Ben oui, oui. Si vous avez lu la Bible, vous savez très bien qu'un jour Dieu jugera le monde et que Dieu jugera tous les impies et tous ceux qui n'auront pas voulu de la grâce de Dieu, que la colère viendra sur la terre. En fait, ça c'est une affaire qui est claire une fois qu'on a lu la parole de Dieu. Mais une fois que nous devenons ses enfants, Dieu devient notre père. Et vous devez d'abord voir Dieu comme un père plein d'amour qu'un juge sévère. Vous avez vu ? Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Parce qu'on a besoin de consolation, même les hommes. Il y a des hommes qui disent, moi je suis un dur moi. Moi je pleure jamais. Moi je n'ai pas besoin de câlin. Moi j'ai besoin de rien, je suis un homme. Écoutez, moi je ne sais pas si c'est intelligent. Moi je crois que quelle que soit notre vie, notre âge, à des moments, ça fait vraiment du bien d'être consolé. C'est pas vrai ? Et on a tous besoin. Ce texte nous prouve que les hommes aussi ont besoin d'être consolés. Alors, ne jouons pas les durs, ça sert à rien. Je crois qu'il faut garder un cœur tendre, parfois s'endurcir par rapport à des situations, mais je crois que c'est bien d'avoir un cœur tendre. Puisqu'on est dans Ésaïe, regardez avec moi, au chapitre 51. Si vous lisez Ésaïe, vous allez voir que le peuple s'éloigne de Dieu et que Dieu tout le temps est en train d'essayer de les rattraper. Pourquoi faire ? Mais pour les bénir. Et ils ont du mal à comprendre. Enfin, je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Ésaïe 51, verset 12. Je crois qu'on leur ressemble beaucoup. C'est pas vrai ? Vous ne croyez pas que des fois on ressemble à ces gens qui ont du mal à saisir ? Eh bien, parce qu'on est pénible. Voilà, il faut dire les choses. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Il vous faudrait lire tout le chapitre. C'est moi qui vous console. Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe, et tu oublierais l'Éternel ? Et vous voyez que Dieu n'a qu'un désir. Il est en train de leur dire, mais écoutez, de les rattraper. Mais c'est moi qui vais vous consoler. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Regardez un peu plus loin, Ésaïe 61. Si vous saviez comment Dieu veut vous bénir, vous le croyez que Dieu veut vous bénir ? Ou est-ce qu'il vous faut mériter ? Cet après-midi, je discutais avec un gars qui, voilà, il n'arrive pas à se pardonner. Il n'arrivait pas. Et il me disait hier au téléphone, ce matin, peut-être que Dieu me pardonnera, petit à petit. Mais comment ça, petit à petit ? Dieu vous a déjà pardonné. Si vous lui avez demandé pardon, il vous a déjà pardonné. Alors j'ai joué un peu de l'humour. Eh bien, j'ai dit, écoutez, vous voulez que Dieu vous bénisse ? Eh bien, donnez tout votre argent à l'église, priez des heures, jeûnez des années entières. Ah, regardez. J'ai dit, bien non. J'ai dit, quand Dieu console, quand Dieu nous parle de consolation, c'est parce qu'il veut nous consoler. C'est important. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà le ministère de Jésus-Christ. Ça commence de bonnes nouvelles. Ce soir, quand on parle de consolation, on peut en déduire que c'est quand même une bonne nouvelle. Vous voyez, aux malheureux, parce qu'on est malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça arrive d'avoir le cœur brisé? Vous voyez, on parlait de dur. Mais c'est sûr qu'il y a des gens. Moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, moi, j'ai jamais souffert. Je ne le crois pas, hein. Mais je crois que quand on ne souffre pas, c'est qu'on n'aime pas. Mais dès qu'on se met à aimer, on a des problèmes. Parce qu'on est déçu, c'est pas vrai? Quand est-ce qu'on a le cœur brisé? Parce qu'on a aimé quelqu'un et ce quelqu'un nous a déçu, ça nous a brisé le cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, le cœur brisé, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est précis. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous vous rendez compte? Aux prisonniers la délivrance. Verset 2, la fin du verset 2. Pour consoler tous les affligés. C'est comme ça que vous avez? Pour consoler tous les affligés. Tous. C'est pas, je consolerai ceux qui ont une foi supérieure. Pour consoler tous les affligés. Et si quelqu'un ce soir avait une crainte, un malaise, une angoisse dans son cœur, ne restez pas dans cette crainte en disant peut-être qu'un jour, quand je ferai des progrès, Dieu m'accordera sa bénédiction. Vous savez, sans vouloir critiquer, on a été trempés plus ou moins tous dans la religion catholique qui nous a enseigné qu'il fallait mériter. Du temps de Jésus, les pharisiens étaient dans la religion du mérite. Vous vous rappelez le gars de la synagogue, le centenier, il mérite que tu lui accordes ça parce qu'il a fait ça pour notre nation. Vous voyez, la religion du mérite, ah je mérite la bénédiction parce que je me suis tenu à carreau depuis que je suis petit. Ah je mérite un petit bon point parce que j'ai prié tous les jours de ma vie. Peut-être que moi je vais passer entre les mailles. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible, ça. Dieu, il fait grâce à tout le monde. Voilà ce qui va se passer, dit Dieu, je consolerai tous les affligés, tous. Et n'essayez pas de commencer à croire qu'il va falloir que vous méritiez quelque chose pour être béni, comme ce gars à qui on a eu cet après-midi, que j'ai eu ce matin au téléphone, qui a l'impression qu'il a trop péché et que Dieu ne peut pas le pardonner. Il n'a pas la foi, il ne croit pas cette simplicité. Il console tous les affligés. Dans 2 Corinthiens, on ne l'a pas lu, mais au chapitre 7, il est dit que Dieu console tous ceux qui sont abattus. Pourquoi on est abattu? Parce qu'il y a des choses qui nous sévèrent, qu'il y a des choses qui nous font mal. Dans la vie, elle est faite d'épreuves. Elle est dure, la vie, des fois. C'est pas vrai? Vous ne trouvez pas qu'il y a des choses difficiles? Il y a des choses sévères. Et le Seigneur, il le sait. Voyez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Avant de quitter la terre, alors qu'il allait être renié, vendu, tout le monde allait l'abandonner. On allait lui taper dessus, lui cracher dessus, lui arracher les poils de là-bas. Vous savez tout ce que Jésus a vécu. Il a été flagellé, il a connu Gethsémané. Enfin, tout ce que Jésus a subi, c'est quelque chose d'hallucinant. Et alors qu'il savait qu'il allait vivre tout ça, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous enverrai un autre consolateur. Il aurait pu dire, bon, avec tout ce qu'ils vont me faire, eh bien, je ne vais pas leur dire. Si là, ils vont trop en faire, eh bien, je ne vais pas leur dire. Dieu, il n'est pas comme ça. Nous, on est comme ça. Ah, tu m'as fait ça? Eh bien, tant pis. Il n'est pas bon, le Seigneur. Il leur dit, je vous enverrai un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. Le consolateur vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. L'importance de lire la Bible pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler les promesses, les bénédictions, les versets de l'Écriture. Moi, je le vois en tant que pasteur, ça m'est facile de plus en plus de préparer des prédications parce que j'ai lu la Bible plusieurs fois, dont le Saint-Esprit peut me rappeler facilement les textes de l'Écriture. Quand je mettais 4 heures pour préparer une prédication, je peux aujourd'hui mettre 3 quarts d'heure parce que le Saint-Esprit peut facilement me rappeler les choses que j'ai apprises. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est pas extraordinaire, ils allaient tous le renier. Le vendre, il y en a même qui l'a vendu quand même, je veux dire. C'est quand même affolant. Et il dit, je vous donne ma paix. Comment on pourrait être troublé après avoir entendu des paroles pareilles? Il dit pas, bon, je vous bénirai, mais enfin bon, je vous bénirai quand vous le mériterez. Ou alors je vous bénirai quand les moments seront quand même difficiles, là, j'interviendrai. Non, c'est pas ça qu'il dit. La Bible dit qu'il sera toujours avec nous. Vous le croyez? Vous le croyez parce que c'est écrit? Ou vous le vivez parce que c'est la vérité? Parce que ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'on le vit. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas confiance à Dieu. C'est bien dit ? Beaucoup de gens croient en Dieu. Non. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont tristes. Il y a plein de gens qui sont athées, qui se disent athées, mais en même temps, des fois, ils prient. Ils vous diront qu'ils croient en Dieu. Ça ne change rien dans leur vie. Ils s'éloignent de Dieu. Mais un chrétien ne doit pas croire en Dieu. Un chrétien, il doit croire Dieu, que ce qu'il dit, c'est la vérité. Dieu ne dit pas qu'il interviendra que quand ça ira très très mal. Il est présent, on l'a lu dans Ésaïe, pour vous donner, on l'a lu le verset, non on l'a pas lu, le verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur il est là ce soir, pour vous donner. Vous êtes abattu, et bien Dieu vous donner un esprit de louange. Vous êtes dans le deuil, ça peut arriver d'être dans le deuil, et bien Dieu veut vous donner une huile de joie, et ainsi de suite. Quelles que soient vos faillites, quelles que soient vos faiblesses, quels que soient vos combats, quels que soient même vos péchés, Dieu est capable de vous bénir et de vous fortifier. Ce matin, mon épouse avait sur son pantalon une tache. Derrière, sur la jambe. Je le lui ai dit. J'ai dit, tu as une tache. Ah, merci. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé. Non, elle n'a pas changé de pantalon. Elle a enlevé la tache. Voilà. Pourquoi on va faire remarquer une tache à quelqu'un? Pour le critiquer? Pour lui montrer qu'il est sale? Ou pour l'aider à enlever la tache? D'accord? Quand Dieu nous montre ce qui ne va pas, ce soir, Dieu peut vous confronter à votre péché, à votre misère. Dieu peut vous montrer des choses, d'accord? Alors, mais il ne va pas vous montrer quelque chose pour vous agacer et pour vous détruire. Si Dieu vous montre quelque chose qui ne va pas, c'est pour vous aider. Et il va vous montrer comment il va faire. D'ailleurs, regardez, dans Ésaïe 57, c'est très bien expliqué. Dans Ésaïe 57, Dieu montre qu'ils s'éloignent, et ça irrite le cœur du Seigneur, dans le sens où Dieu sait très bien qu'ils sont en train de s'éloigner de lui. Alors on voit au verset 17 que Dieu montre, voyez, Ésaïe 57, 17, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. On voit que Dieu, il voit la tâche, ils se rebellent, ils sont loin de Dieu et au verset 18, il donne la solution. J'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerait, lui et ceux qui pleurent avec lui. Voyez, d'un côté, Dieu montre la tâche, et de l'autre, il montre ce qu'il veut faire. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans la désobéissance, eh bien, repentez-vous, et Dieu va vous bénir, et Dieu va vous consoler. Il y a un texte, je ne me suis pas rappelé la référence, je sais que c'est dans les psaumes, il est dit que Dieu a pitié de toutes nos ruines. Il est pas beau ce verset ? Dieu a pitié de toutes nos ruines. Moi, je comprends pourquoi il y a des gens qui ne vont pas vers Dieu. Je comprends pourquoi des chrétiens sont affligés et restent toujours dans la tristesse. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Ils ne les saisissent pas. Quand Jésus a dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ce n'est pas extraordinaire ? « Heureux les affligés. » Il n'a pas dit « Heureux ceux qui marchent très très bien avec moi. »« Heureux ceux qui n'arrêtent pas de faire des progrès. » Je suis content d'eux. Heureux ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu et qui pourvoient abondamment à l'œuvre de Dieu. Non, heureux les affligés car ils seront consolés. Il n'est pas dit, Dieu oublie ceux qui sont affligés. Nous, des fois, on oublie. Il n'est pas dit, Dieu oublie, Dieu abandonne les faibles. Tiens, est-ce que ça pourrait être écrit, Dieu abandonne ceux qui sont affligés? Mais il y a des gens, il y a des chrétiens, quand ils sont affligés, ils se disent, ben ouais, peut-être que Dieu ne m'aime plus, peut-être que Dieu m'abandonne, voyez. Peut-être que je ne vais pas si bien que ça, Dieu ne s'intéresse pas à moi. C'est exactement l'inverse. Dieu dit qu'il console tous les affligés, il n'oublie personne. Ce soir, Dieu veut vous montrer qu'il s'intéresse à vous. Et que vous devez vous emparer de la bénédiction. Alors comment, peut-être quelqu'un il a dit, mais comment m'emparer de cette consolation? Comment m'emparer de cette paix? Eh bien, c'est toujours pareil dans la Bible. C'est toujours par la foi. C'est toujours par la foi. Le juste, il vivra par la foi. Et la foi, c'est croire Dieu sur parole. C'est pas plus compliqué. Ce que Dieu dit, je le crois. Et vous avez vu Asaph, dans le psaume 77, il est dans un conflit intérieur, il exprime sa foi, son amour, et en même temps, il refuse la consolation. Vous voyez, comme des fois, on est compliqué. Est-ce que vous le comprenez, Asaph? Est-ce que vous le comprenez que parfois, on peut être compliqué? Et voilà. Mais c'est bien. Et tout a été écrit, c'est écrit, tout a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, pour que les Écritures nous consolent. Alors, pourquoi ces bénédictions vous échapperaient-elles? Pourquoi passeriez-vous à côté? Pourquoi on passe à côté de la consolation, pour revenir sur le sujet? Eh bien, parce que ce que l'on pense est plus important que ce que Dieu dit. C'est pour ça que les gens n'entrent pas dans le repos. Ce qu'ils pensent dans leur cœur est au-dessus de la vérité. La foi, je le répète, c'est croire Dieu sur parole. Jésus un jour a dit, regardez les oiseaux du ciel. Il a dit ça? Considérez les fleurs des champs. Vous valez beaucoup plus qu'eux. Je prends soin d'eux. Alors à combien plus forte raison, je prendrai soin de vous. C'est à peu près comme ça qu'il a dit le Seigneur? Bon, d'accord, vous connaissez la Bible. Pourquoi ces paroles extraordinaires ne suffisent-elles pas à nous consoler? Et parce qu'on ne les croit pas. Est-ce que ça ne peut pas être plus clair? Vous voyez, cet après-midi, on parle avec ce gars-là. Il me dit, mais je vais à l'imposition des mains. Chaque dimanche, je vais à l'imposition des mains. Je fais ci, je fais là. Je lui dis, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez venir 4-5 fois par réunion à l'imposition des mains. Ça ne changera rien. Le problème, c'est que vous ne croyez pas que Dieu pardonne quand on a péché. Et si les gens n'entrent pas dans le repos, ne connaissent pas ce Dieu de toute consolation, c'est qu'ils ne croient pas. Pourquoi je suis inquiet, toujours inquiet, alors que Dieu a promis qu'il se chargerait de tous mes fardeaux? Il l'a dit ou il l'a pas dit? Est-ce qu'il a dit qu'il prendrait soin de nous? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Et parce que je ne crois pas. Quelqu'un qui est toujours inquiet, c'est quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu dit. Pourquoi j'angoisse à tort et à travers dès que je suis dans une épreuve, alors que Jésus a dit que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu? Parce que je ne crois pas. Bon, c'est vrai que l'épreuve, on en a parlé, on n'a pas été hypocrite. Il y a des épreuves, il y a des combats. Mais pourquoi j'angoisse dans ces épreuves? Pourquoi j'angoisse dans ces combats? Eh bien, parce que je ne crois pas que ça va concourir à mon bien. Mais si vous êtes dans une épreuve, et si vous croyez que par la foi, en acceptant cette épreuve, Dieu va la faire concourir à votre bien, vous traverserez cette épreuve dans la paix. Le problème, je dis ça pour terminer, les gens y veulent ressentir. Ah, monsieur Gau, vous avez senti ce matin la présence de Dieu? Je dis non, mais j'en ai pas besoin. Les gens y veulent sentir. Et c'est ce qui les empêche d'être bénis. Et en fin de compte, c'est l'incrédulité qui est à l'origine de tous ces malheurs et de ce manque de consolation. Je ne dois pas regarder à ce que je pense, je dois regarder à ce que Dieu dit. Parce que là-dedans, moi je trouve que des fois, ça... Vous ne trouvez pas? Et on termine justement avec un psalmiste qui en parle. De ça. Dans le psaume 94, vous avez la preuve que des fois ça bouillonne là-dedans. Je sais pas vous. Hein. Oui ou non? Ça vous arrive des fois que le cerveau il est en ébullition? Psaume 94, verset 19. Regardez, c'est quand même rassurant ce qu'on va lire. Et c'est là que l'on voit que la foi peut prendre le dessus sur les émotions. C'est exactement ce que je voulais vous expliquer tout le long de cette réunion, c'est que ce n'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est ce que Dieu dit. Le psalmiste connaît Dieu et il fait le break, comme on a vu avec Josaphat mardi, et il prend le dessus, il est dans la peur, mais clac, il prend le contre-pied et il exprime sa foi, et ça va plaire à Dieu. C'est pareil pour le psalmiste, psaume 94, verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. » Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe dans le ciboulot. Tes consolations réjouissent mon âme. On voit l'homme qui est perturbé dans ses pensées, il ne sait plus quoi penser, il s'en va dans tous les sens, et il dit non. Ce sont tes promesses qui me consoleront. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense. Vous pouvez dire, ouais, ça va mal tourner. Comment ça va finir? Comment ça va finir? Si Dieu, si vous mettez Dieu dans votre vie, si vous remettez Dieu dans votre vie, si vous mettez Dieu dans votre foyer, dans votre maison, Dieu fera concourir les choses à votre bien. Gloire à Dieu. Voilà, il est le Dieu de toute consolation. Si vous êtes chrétien, il ne faut pas voir Dieu comme un juge. Les païens doivent voir Dieu comme un juge. Si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, alors ça je peux vous dire que vous pouvez voir Dieu comme un juge. Si vous voulez terminer votre vie dans le péché sans la grâce de Dieu, sans le sang de Jésus-Christ, alors là vous pouvez dire oui, Dieu ça sera un juge. Mais je peux vous dire que si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, vous pouvez dire Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Et croyez-moi, vous aurez envie de vous approcher de lui. On ferme les yeux quelques instants. Notre Père, notre Dieu, oui, nous le croyons que tu es le Dieu de toute consolation. Tu savais qui viendrait ce soir. Et comme le psalmiste, que de fois nos pensées ont été agitées en foule dans notre cerveau. Que de fois notre cœur a été troublé, affligé, douloureux, dans la douleur, dans la crainte ou dans la peur. Et tes consolations ont donné un baume à notre cœur. Si une maman peut consoler son enfant, à combien plus forte raison tu peux consoler un homme dans l'affliction. Seigneur, merci de t'être présenté comme le consolateur. Merci d'avoir nommé le Saint-Esprit le Consolateur, afin que dans toutes nos afflictions, nous sachions réaliser et surtout recevoir ce que toi seul peux donner, cette paix infinie. Seigneur, merci, merci de te nommer le Père des miséricordes, le Père, le Dieu de la consolation. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.